Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, à Hong Kong, le départ des députés pro-démocratie. Ils ont tous annoncé leur prochaine démission et cela suite à une décision du Parlement chinois, décision dénoncée à l'étranger par Londres ou encore Berlin.
En France, l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon, cet écrivain grièvement blessé pendant la Première Guerre mondiale. C'était le temps fort des commémorations ce mercredi de l'armistice du 11 novembre 1918.
Et puis du football ce soir, l'équipe de France reçoit la Finlande en match amical. Coup d'envoi dans 10 minutes, on sera au Stade de France à la fin de cette édition.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Et on commence par cette décision brutale à Hong Kong.
Oui, tous les députés pro-démocratie, donc les députés pro-démocratie qui s'opposent à la mainmise de la Chine, ils ont tous annoncé leur prochaine démission. C'est une décision en signe de solidarité, car un peu plus tôt dans la journée, 4 députés pro-démocratie avaient été démis de leur mandat, c'est-à-dire qu'ils avaient été poussés à démissionner. La raison ? Une résolution adoptée par le Parlement chinois et permettant à l'exécutif de Hong Kong d'exclure tout élu qui mettrait en danger la sécurité nationale ou bien qui soutiendrait l'indépendance de Hong Kong. Heike Schmidt.
Tous les 15 députés pro-démocratie restants claquent la porte du Parlement local en signe de solidarité et pour protester contre l'exclusion de 4 élus de leur camp. Le couperet était tombé quelques instants après le feu vert venu de Pékin. Les 4 députés perdent leur mandat avec effet immédiat et sans la moindre procédure judiciaire. Leur tort, ils avaient appelé les États-Unis à sanctionner les autorités hongkongaises responsables, selon eux, de violations des droits de l'homme. Ces exclusions sont constitutionnelles, légales, raisonnables et nécessaires, a estimé pourtant Carrie Lam, la chef de l'exécutif toujours là pour prêter main forte à Pékin, déterminée à porter un coup fatal au mouvement pro-démocratie. Ce mouvement est aujourd'hui au plus mal suite à l'adoption d'une loi sur la sécurité nationale, une loi qui criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Loin de se résigner, le désormais ex-député Dennis Kwok a déclaré « Si le respect des procédures, la protection des systèmes et la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme entraînaient une exclusion, eh bien ce serait un honneur pour moi. »
Heike Schmidt, c'est la démission collective des députés pro-démocratie de Hong Kong qui fait vivement réagir à l'étranger ce mercredi, évoquant la décision du Parlement chinois qui est donc à l'origine de l'action de ces députés. Le Royaume-Uni a dénoncé une nouvelle attaque contre l'autonomie de Hong Kong. Hong Kong qui, par ailleurs, est une ancienne colonie britannique. Décision qui sape le pluralisme, estime de son côté l'Allemagne, c'est-à-dire qui détruit le pluralisme et donc le fait que plusieurs mouvements soient représentés.
Ce sera l'un des grands dossiers de politique étrangère du futur président américain Joe Biden, le dossier iranien.
Oui, on sait que Donald Trump, le président sortant, a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire qui avait été conclu en 2015. Eh bien, ce mercredi, le président iranien a dit que la voie était ouverte pour un retour des États-Unis dans cet accord à Téhéran pour RFI Siavosh Ghazi.
C'est un message très clair du président iranien Hassan Rouhani à l'égard du nouveau président américain Joe Biden qui avait affirmé lors de sa campagne électorale qu'il voulait réintégrer l'accord nucléaire de 2015 conclu entre l'Iran et les grandes puissances.
Ce nouveau monsieur qui est arrivé récemment a affirmé dès le début qu'il voulait réintégrer l'accord nucléaire. Nous sommes dans l'accord nucléaire et nous ne l'avons pas quitté. S'ils veulent agir selon leurs devoirs, ils peuvent ou non choisir un nouveau chemin. La voie reste ouverte, elle n'est pas fermée.
Ce nouveau message intervient alors que ces derniers jours, les responsables iraniens ont multiplié les déclarations positives à l'égard de la nouvelle administration américaine. Téhéran espère un retour des États-Unis au sein de l'accord nucléaire et surtout un assouplissement des sanctions américaines qui étouffent l'économie du pays depuis 3 ans. En effet, le président Trump a quitté l'accord nucléaire en 2018 et a imposé depuis de très lourdes sanctions contre Téhéran. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Dans la lutte contre le coronavirus, la course au vaccin se poursuit.
Et l'excitation est importante après l'annonce d'un vaccin efficace à 90% selon les résultats préliminaires d'un essai en cours. Aujourd'hui, la Commission européenne a annoncé un contrat avec les deux laboratoires qui sont à l'origine de ce vaccin. L'un est américain, l'autre est allemand. Un contrat donc pour en acheter jusqu'à 300 millions de doses. Rien ne dit que ce sera le vaccin contre le coronavirus. La course, vous l'avez dit Sylvie, se poursuit. Ce mercredi ainsi, le Brésil a annoncé la reprise des essais cliniques d'un vaccin développé par un laboratoire chinois, vaccin qui avait été suspendu suite à la mort d'un volontaire. La pandémie de coronavirus qui continue de progresser et en premier lieu en Europe. Situation très très inquiétante, affirme la directrice du Centre européen de contrôle des maladies, avec notamment le cap des 50 000 morts qui a été franchi ce mercredi au Royaume-Uni. Face à cela, les reconfinements continuent en Europe depuis ce mercredi. La Hongrie impose un confinement partiel qui est censé durer au moins 30 jours.
Et puis Romain, ce mercredi avaient lieu les commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918.
Oui, un armistice, c'est un texte qui met fin à un conflit. L'armistice de 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale, celle que l'on surnomme la Grande Guerre. Ces commémorations, donc aujourd'hui, ont été marquées en France par l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. Le Panthéon, c'est un monument de Paris qui accueille les dépouilles des hommes et femmes ayant marqué l'histoire. Donc c'est le cas de l'écrivain Maurice Genevoix, auteur d'une des œuvres les plus importantes consacrée à la Première Guerre mondiale et grièvement blessé pendant le conflit. Son portrait avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Il était encore étudiant quand à 24 ans, Maurice Genevoix est mobilisé et envoyé sur le front de la Meuse. Là, il endure la guerre sale, la boue des tranchées, le sang des soldats, les orages d'acier, toute cette farce démente qu'il écrira plus tard. Blessé en 1915, cloué sur un lit d'hôpital pendant 7 mois, il prend des notes, raconte ce qu'il a vu, entendu. En 1916, il publie « Sous Verdun », récit ultra réaliste et enchaîne avec « Nuit de guerre » en 1917, plus trois autres livres implacables après la fin de la guerre qui seront rassemblés sous le titre « Ceux de 14 », témoignage magistral du courage des hommes au combat. En 1925, Maurice Genevoix est couronné par le prix Goncourt pour son roman « Rabolio » qui, lui, est un hymne à la liberté à travers le portrait d'un braconnier. Membre de l'Académie française jusqu'en 1973, l'écrivain qui s'est retiré loin de Paris se tourne vers une littérature qui célèbre la nature, les animaux et la vie simple. À sa mort, en 1980, après avoir été l'auteur du Bruit et de la Fureur, il est salué comme le premier conteur écologiste.
Catherine Fruchon-Toussaint, et ce soir, à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, le président français Emmanuel Macron a célébré, je cite, « le courage français ». Avec Maurice Genevoix, entré au Panthéon, eh bien c'est un destin républicain qui entre au Panthéon, une existence française, a déclaré le chef de l'État dans son discours.
Le sport, l'équipe de France de football sur le terrain ce soir.
Oui, les Bleus accueillent la Finlande en match amical. La rencontre sera à suivre toute la soirée dans les journaux de RFI avec Antoine Grenier en direct du Stade de France. Antoine, le coup d'envoi du match est imminent dans quelques minutes, quelques secondes?
Oui, exactement, Romain. Après une minute de silence, on est le 11 novembre, donc minute de silence en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale et notamment à un international français, Julien Verbrugge, tué au combat. Mais comme il l'avait annoncé, Didier Deschamps fait jouer les remplaçants pour ce match. Le sélectionneur français doit gérer la fatigue des joueurs épuisés par leur début de saison. Alors l'immense majorité des titulaires est en repos ce soir. Du coup, une nouvelle tête, Marcus Thuram découvre les Bleus 26 ans après son père Lilian. L'attaquant de Mönchengladbach commence le match avec un gardien, Steve Mandanda, qui a joué aux côtés de son père en équipe de France en 2008 contre l'Équateur. C'est la belle anecdote du soir. Pour le reste, à côté de Clément Lenglet, Paul Pogba et Olivier Giroud qui ont besoin de jouer, Didier Deschamps donne leur chance à beaucoup d'habituels remplaçants, de Kurt Zouma en défense centrale à Wissam Ben Yedder en attaque, en passant par Léo Dubois en latéral droit, Lucas Digne à gauche, Steven Zonzi et Moussa Sissoko au milieu, des joueurs qui ont ce soir l'occasion de se montrer, de justifier leur présence en bleu, voire pourquoi pas de gagner des points dans l'esprit du sélectionneur face à des Finlandais, 55e nation au classement FIFA, ce qui la place juste devant le Mali. L'occasion est plutôt belle, à condition de ne pas se rater.
Eh bien merci Antoine Grenier, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris.